Être en affaires et en famille en même temps, c'est pas toujours facile. Mais quand on sait s'y prendre, ce n'est pas la mer à boire. Mesdames et messieurs, Christine Marcotte.
Tout premier épisode du podcast « Pas la mer à boire » par Christine Marcotte. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir aujourd'hui de vous parler pour la toute première fois. Je tiens à mentionner que le show est disponible sur Apple Podcasts, Google Play, Spotify, Android et bien sûr sur radioh2o.ca. Et en tout temps, vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur LinkedIn, sur YouTube, sur le site web www.réseaumèreaffaires.com. Mais tout d'abord, j'aimerais te parler de moi. Question qu'on fasse un peu connaissance pour cette belle aventure de podcast qui débute pour moi. Donc, je t'avertis tout de suite, je suis vraiment, vraiment une personne très transparente et totalement honnête. Il va sûrement y avoir des fous rires, des erreurs, mais ça me rend tellement attachante. Donc, on va faire plus ample connaissance. Donc, je voulais tout d'abord te parler de mon podcast. C'est quelque chose qu'on me demande depuis presque un an, en fait. Des petits rendez-vous comme ça, hebdomadaires avec toi. La vie, mon parcours de vie a fait en sorte que je me retrouve devant le micro aujourd'hui à te parler. Mais en premier lieu, je suis originaire d'un petit village en Mauricie qui s'appelle Sainte-Thècle. Et oui, il y a une sainte qui a porté le prénom Thècle. Donc, c'est tout près de Saint-Tite, le Festival Western. Je suis sûre que tu connais ça. Et sinon, ben, va chercher ça dans Google. C'est un événement à ne pas manquer. Qu'on soit fan ou pas de Western, ça vaut vraiment le détour. Donc, j'ai grandi là-bas. Et ensuite, depuis toute jeune, je me souviens que je rêvais de devenir animatrice télé. Je voulais être devant les caméras, je voulais rencontrer les gens, faire des entrevues. Mon rêve s'est développé aussi quand j'écoutais des reportages, par exemple à Radio-Canada. Et ensuite, dans mon adolescence, j'ai découvert le défunt poste de télé Musique Plus et je suis tombée en amour professionnel avec Véronique Cloutier. Donc, dès le début de mon secondaire, je me suis dit qu'un jour, j'allais devenir la Véronique Cloutier numéro 2. Mais c'est pas ça du tout qui s'est passé et c'est bien heureux ainsi. Mais ça m'a aidée. Ça a parsemé des étincelles de rêve tout au long de ma vie. Et ça a surtout fait en sorte que tout mon secondaire, je l'ai passé à mettre en place un plan pour être acceptée en arts et technologies des médias, un DEC au cégep de Jonquière. Donc, du haut de mes 17 ans, je suis partie seule en appartement étudier la communication au cégep de Jonquière. Et je peux t'assurer que ce que Plume Latraverse dit dans sa chanson Jonquière, c'est vraiment ça qui se passe. Donc, j'ai appris la vie. J'ai appris la vie sous différents angles, mais j'ai surtout découvert que oui, je mangeais de la communication au petit déjeuner, au dîner et au souper, que ça allait faire partie intégrante de ma vie, mais je savais juste pas encore de quelle façon ça allait faire partie de ma vie. Donc, j'ai étudié là-bas de 97 à 2000. Et ensuite, la vie a fait en sorte que j'ai fait un stage comme recherchiste à Salut Bonjour, où j'ai travaillé pendant un an comme recherchiste par la suite. Ça a été une superbe expérience. Le hic, c'est que quand on travaille à Salut Bonjour, une émission matinale, comme ça. On commence à 2-3 heures du matin, puis on finit à 10 heures le matin après l'émission. Donc, c'est un horaire un peu difficile. Vraiment, je lève mon chapeau aux gens qui travaillent dans les shows du matin, que ce soit à la radio ou à la télé. C'est vraiment, vraiment pas facile comme horaire, autant au niveau de la vie sociale que notre corps, en fait. C'est vraiment une discipline de vie incroyable. Et parlant de la vie, elle m'a amenée sur un tout autre chemin parce que j'ai adoré mon expérience, mais à ce moment-là, je me disais que j'étais pas faite pour travailler dans le milieu de la télé, qui est un milieu difficile, c'est contingenté. Donc, la vie m'a amenée à travailler en événementiel, mais toujours en communication. Moi, au secondaire, j'étais la fille qui organisait les parties, le bal, qui faisait partie de toutes les comités, qui aimait ça organiser des trucs. Donc, rapidement, je me suis retrouvée comme un petit poisson dans l'eau en événementiel. Mon travail, à ce moment-là, était au Challenge Volleyball de Repentigny, qui était une compétition internationale de volleyball de plage. Et ma job, c'était d'amener les médias à venir sur les lieux de l'événement pour en parler. Ce qui n'était pas nécessairement évident parce que Repentigny, c'est tout près de Montréal et les grands médias ne se déplacent pas facilement. Question de budget, question de trucs à parler aussi, évidemment. Donc, ça a été pendant 3 ans une magnifique expérience aussi pour moi. J'ai beaucoup, beaucoup grandi et surtout, je me suis découvert une passion encore là pour la communication, mais vraiment en événementiel. C'est vraiment là que je me suis rendu compte que j'avais un talent pour gérer du personnel, organiser des événements, planifier les échéanciers, tout ce que comporte un événement finalement. Mais à la fin de mon 3e mandat pour cet événement-là, j'étais enceinte de mon premier garçon, Émile, qui est né en 2002. Donc, je suis tombée en congé maternité. J'ai découvert la maternité très jeune et c'était vraiment voulu. Moi, je voulais avoir mes enfants jeunes. J'avais 22 ans quand j'ai accouché d'Émile et c'était voulu, planifié, prévu dans ma vie que j'allais avoir mes enfants jeunes. Je voulais une grande famille et je voulais aussi qu'il y ait une distance d'âge entre mes enfants pour vraiment en profiter. Donc, Émile a été enfant unique pendant 4 ans avant que j'aie Xavier en 2006. Ensuite est arrivé Eugène en 2011. Et entre-temps, professionnellement parlant, je me suis promenée beaucoup, beaucoup, beaucoup de contrat en contrat. Mais ce qui est arrivé dans ma vie comme une bénédiction, ça a été à la fin de mon congé maternité d'Émile. Un contact à moi m'a dit « Écoute, le club de football, les Alouettes de Montréal cherchent quelqu'un, ils sont mal pris, ça serait pour un petit 2 semaines, un petit job facile, je sais que tu es avec le bébé, est-ce que tu serais disponible? » Puis j'ai dit « Oui, ça tombe super bien parce qu'Émile commençait à la garderie. » Donc, je suis allée, j'ai accepté le mandat de 2 semaines qui finalement a duré 9 ans. Donc, j'ai eu l'opportunité et l'immense bonheur de travailler au club de football Les Alouettes de Montréal pendant 9 belles saisons. Les années un peu d'Anthony Cavillo pour ceux et celles qui suivent le football. J'ai connu là-bas 2 parades de la Coupe Grey. On a reçu l'événement la Coupe Grey à Montréal, 4 jours de festivités et de football. J'ai connu un stade olympique plein à craquer de 55 000 partisans, des crazy fans qui suivent les joueurs, qui suivent l'équipe depuis les tout débuts. J'ai entendu le stade vibrer. J'ai connu l'ancien stade Percival Molson. J'ai connu les phases d'agrandissement. J'étais enceinte d'Eugène à ce moment-là et je me souviens, je longeais en large le stade pour m'assurer que les partisans allaient retrouver un beau stade tout neuf. J'ai connu un paquet d'émotions et surtout vraiment une opportunité incroyable de travailler pour cette équipe-là. J'ai appris énormément, énormément. Et à mon retour de 3e congé de maternité, donc quand Eugène est né en 2012, beaucoup de choses avaient changé au niveau de l'organisation. Larry Smith, l'ancien président, était parti. Beaucoup de choses avaient changé aussi au niveau des valeurs de l'organisation avec le départ de M. Smith. Donc, ça allait moins bien à ce moment-là pour moi. Je me retrouvais moins. Maman de 3 enfants, j'habitais sur la rive sud de Montréal, le voyagement, tout ça. Ça commençait à vraiment beaucoup me préoccuper. Et la vie m'a envoyé un signe, un triste signe, on pourrait dire ça, mais c'était quand même un signe et vous allez voir que j'ai transformé ça en quelque chose de magnifique. Donc, à mon retour de congé, on a appris le diagnostic assez drastique du cancer de ma mère. Donc, en février 2012, cancer généralisé, les médecins étaient formels, elle n'en avait que pour quelques mois à vivre. Donc, comme je vous le disais au début, je suis originaire de la Mauricie, mes parents habitaient toujours là-bas. Et rapidement, j'ai dû porter le syndrome de la superwoman, c'est-à-dire que je travaillais avec passion et comme une folle aux Alouettes de Montréal, presque un 60 heures semaine. J'avais les trois enfants, bien, c'est sûr que le papa était très impliqué aussi, mais quand même, j'avais trois enfants à accompagner qui voyaient la qualité de vie de leur grand-mère s'en aller à petit feu. J'avais, moi, le deuil à vivre de perdre ma mère. J'avais aussi mon père là-dedans. Parce qu'au travers de ça, on a vécu le départ prématuré de mon petit frère, David, qui est décédé, qui s'est enlevé la vie 2 semaines après que j'ai accouché d'Eugène, donc en février 2011, un an auparavant le diagnostic de cancer de ma mère. Donc, je vous laisse faire un petit lien. Mais ça a fait que la superwoman a frappé un mur. À un moment donné, accompagner ma mère dans ses traitements parce que les médecins lui avaient dit « on va essayer de prolonger votre vie, de vous donner une bonne qualité de vie dans la mesure du possible, mais c'est sûr qu'on ne vous guérira pas, c'est sûr qu'on ne parlera jamais de rémission. » Donc, il y avait des traitements possibles en radio, il n'y a pas eu de chimio. Et tout au long de son dernier voyage, en fait, on a essayé, mon père et moi, de lui faire réaliser quelques rêves sur sa bucket list. Donc, m'affairer à faire ça, plus mon propre deuil à moi, à un moment donné, la superwoman a frappé un mur. Donc, je suis allée voir mon patron aux Alouettes et je lui ai dit, écoute, ça fait 9 ans que je travaille ici, ma mère se meurt, je voyage beaucoup, tu sais, je partais du bureau, j'allais à Trois-Rivières ou à Shawinigan la voir, je revenais très tard le soir, j'allais embrasser mes enfants, le lendemain matin, je me levais, vite, vite, la garderie, l'école, on retournait au bureau, c'était infernal et surtout, ça faisait pas de sens pour moi de vendre du plaisir, de vendre du football, de gérer mon équipe alors que ma mère se mourait. Donc, je suis allée voir mon patron, je lui ai expliqué tout ça, puis je lui ai fait la proposition de travailler 4 jours semaine et d'avoir une journée de télétravail. Donc, de partir avec mon ordinateur, mon cellulaire, d'aller en Mauricie, profiter de ma mère, d'être là, de faire ma part, mais d'être présente au bureau seulement 4 jours semaine et bien sûr, de faire cet horaire-là en fonction des matchs et des événements spéciaux qu'on avait. Malheureusement, ça m'a été refusé. Donc, mon patron m'a dit, on ne peut pas faire ça, ça va créer un précédent. Après ça, il y a plein de monde qui vont nous demander ça. Malheureusement, je ne peux pas accepter ta proposition. Et moi, sur un coup de tête, j'ai dit, ouais, tu sais quoi, c'était comme pas une demande. Je m'en venais t'informer de ça. Si pour toi, ce n'est pas possible, ben, je vais juste quitter mon emploi. C'est comme ça que je suis sortie de son bureau, que je suis allée au mien, que j'ai ramassé mes effets personnels et que j'ai quitté les Alouettes de Montréal. Donc, je suis partie et je me revois dans l'autobus du transport en commun pleurer ma vie parce que je venais de claquer la porte sur des avantages sociaux incroyables, des semaines de vacances payées, des conditions de travail fabuleuses, une équipe que j'aimais, un travail que j'adorais. Le père des garçons m'a dit « Écoute, Christine, on va trouver des solutions, t'en fais pas. » Une mère, t'en as juste une et tu te dois d'être là, sinon tu vas le regretter. Donc, j'ai écouté mon cœur, j'ai écouté mes valeurs et j'ai quitté les Alouettes pour aller m'occuper de ma mère. Et c'est pour ça que je disais que la vie m'avait envoyé un drôle de signe, mais ça a été quand même ça le signe, parce que là, j'ai vraiment pris goût à la vie d'entrepreneur et de mère en affaires. Donc, j'ai accompagné ma mère qui nous a quittés en juillet 2012. J'étais là, je lui ai tenu la main jusqu'à la toute fin. Je l'ai accompagnée dans le processus d'organisation de ses funérailles avec ma mère. On a tout organisé le matin de son décès. On a quitté l'hôpital et on est allé voir la fleuriste où elle avait choisi ses fleurs. On est allé voir le curé pour lui donner le CD de chansons qu'on avait préparé pour la cérémonie. On est allé au salon funéraire pour dire « c'est fait, elle nous a quittés, donc elle va arriver sous peu. » s'il vous plaît, vous savez c'est quoi ses dernières volontés, donc allez-y dans le respect. On avait choisi son urne, on avait même fait faire les signets qu'on remet au salon funéraire de son vivant, donc tout était prêt et bizarrement j'ai eu du plaisir à organiser ça avec ma mère et ça a été une bénédiction de faire ça de son vivant parce que je la sentais avec moi tout au long du processus parce qu'elle avait tout choisi, tout était organisé. Ça faisait un effet domino. C'est comme si on avait placé ensemble tous les dominos pour faire un symbole. Et quand elle est partie, on a donné la fameuse pitch note sur le domino et ça a créé l'image qu'elle voulait. Donc, suite à son décès, bien, je me suis questionnée à savoir ce que je voulais faire de ma vie. Pendant les mois où je l'ai accompagnée, j'ai créé une entreprise de coordination d'événements. Donc, je faisais des mariages, des fêtes d'enfants, j'ai rencontré des personnes fabuleuses. Mais suite à son départ, je me suis questionnée parce que la clientèle des mariages, c'est une clientèle qui est difficile dans le sens où c'est beaucoup d'argent pour une journée, c'est beaucoup d'émotions aussi. Donc, gérer tout ça pour moi, ça devenait difficile. Ça devenait un peu aussi secondaire, dans le sens où moi, j'ai vu ma mère perdre la vie à 57 ans. C'est très, très jeune. C'était une jeune grand-maman. J'avais encore besoin de ma mère. J'aurais toujours besoin de ma mère, d'ailleurs. Donc, pour moi, c'était un peu bizarre de gérer des crises puis des paniques, des chicanes de famille qu'il y a dans les mariages quand on vient de perdre sa mère. Donc, je me suis beaucoup, beaucoup questionnée. Je me suis beaucoup remis en question aussi. J'ai eu un peu ma crise de quarantaine, mais à 32 ans finalement, est-ce que c'est ça que je veux vraiment dans ma vie? Est-ce que c'est ça que je veux pour le futur? Ça a amené beaucoup, beaucoup de questionnements aussi chez mon conjoint, qui était très proche de ma mère, qui a vécu ça aussi, le deuil de sa belle-mère. Ça a été un peu intense. Et ça a fait en sorte qu'on a été capables, tous les deux, d'être des parents responsables et de se dire, écoute, on s'aime beaucoup, mais peut-être pas assez pour continuer d'être un couple. Donc, on a pris nos responsabilités et on a décidé de se séparer, de devenir des amis parents, de toujours être présent pour les garçons, mais on n'était plus amoureux. Et du haut de nos 32 ans, après presque 15 ans de vie commune, on s'est dit que c'était le temps que notre relation prenne un nouvel envol vers l'amitié plutôt qu'en amour. Et encore à ce jour, je suis très, très fière de la coparentalité qu'on a créée ensemble et moi, le père de mes trois premiers garçons, parce qu'il n'y a pas eu de chicane, il n'y a pas eu de juge, il n'y a pas eu de crise. Les enfants se sont super bien adaptés. On a toujours mis à l'avant le bien-être de nos enfants et ça fait en sorte qu'on a vraiment, bizarrement, bien réussi notre séparation. Donc là, je me retrouve mère monoparentale. Je ne sais pas trop ce que je veux faire dans la vie. J'ai trois beaux enfants. Je vis avec le deuil de ma mère. Et je vis le deuil de mon frère un peu à retardement. Et ça fait en sorte que j'ai mis l'emphase sur le réseautage. J'ai mis l'emphase sur la rencontre des gens pour développer mon entreprise. Et c'est là que j'ai rencontré mon ancienne associée avec qui j'ai fondé le concept Mademoiselle en boîte, qui était un coffret beauté livré à domicile sous forme d'abonnement. Donc, principalement, les femmes s'abonnaient au coffret beauté et recevaient une boîte à surprise chaque mois qui contenait toujours de 5 à 6 items reliés à une thématique mensuelle. Et c'était une boîte surprise. Donc, ça a été un super beau concept. Ce projet d'affaires-là m'a amenée à Paris. J'ai vraiment trippé ma vie. J'ai rencontré des fournisseurs incroyables. J'ai eu des mots, des témoignages comme quoi ces boîtes-là pouvaient changer la vie, l'estime des femmes. Mais après 18 mois d'existence, ça reste que c'était un projet d'affaires, que l'objectif, c'était de faire de l'argent avec ça. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Parce que le territoire du Québec est très, très grand et les frais de livraison sont très, très chers. Donc, un concept comme My Little Box à Paris, où tout est proche, où la livraison est vraiment peu dispendieuse, ça peut fonctionner. Mais ici au Québec, un frais de livraison à 12,95 pour une boîte de produits de luxe, on va se le dire, là, entre nourrir ses enfants et acheter Mademoiselle en boîte, le choix était facile pour certaines de nos abonnés. Donc, une boîte qu'on vendait 24,95, rapidement, on s'est rendu compte que le projet n'allait pas être viable très, très longtemps. Donc, avant de perdre des plumes et avant d'avoir des dettes d'entreprise, mon ex-associé et moi, on a décidé de fermer le concept, de fermer l'entreprise. Ça a été hyper simple parce que, justement, on n'avait pas de dettes, on n'avait pas de redevances, on a honoré tous nos abonnements. On a vraiment fait ça en bonne et due forme et on a fermé le tout et on s'est séparés. On parle de business, bien entendu. Et là, je me retrouvais encore à coordonner des événements. J'ai eu des contrats pour certaines municipalités, des villes, pour organiser, par exemple, leur party de bénévoles, des trucs comme ça. Je me suis fait un nouveau chum. L'amour est revenu dans ma vie. C'était un ami depuis quelques années. C'était un collègue de travail aussi aux Alouettes de Montréal parce que mon conjoint actuel travaillait en sécurité aux Alouettes. Donc, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et la vie nous a rapprochés, nous a fait nous voir différemment maintenant qu'on était célibataires tous les deux. Alors, Simon est entré dans ma vie par la suite. Et très rapidement, on a construit une relation solide. Ça n'a pas été long, on s'est acheté une maison. Un an après, on avait notre petite Emma. Mais avant d'avoir Emma, j'ai eu l'idée de revenir à mes anciennes amours. Et c'est là qu'est né le réseau des mères en affaires. Donc, le réseau est né parce que moi, j'ai connu, quand je faisais du réseautage pour mon entreprise de coordination d'événements, des mamans en affaires, un réseau qui s'appelait les mâmes entrepreneurs. De là, j'ai connu des mères en affaires avec qui je suis toujours en communication. J'en ai même certaines qui sont devenues des vice-présidentes pour moi, que j'ai connues pendant ces activités de réseautage-là. Mais ce réseau-là est malheureusement décédé rapidement parce que les fondatrices n'avaient pas les connaissances requises pour faire rouler une aussi grosse entreprise. Donc, quand c'est mort dans l'œuf un peu, moi, j'étais toujours à l'emploi des Alouettes de Montréal, si on veut. C'était un peu avant le décès de ma mère. Donc, quand les fondatrices ont décidé de fermer le tout, moi, je n'étais pas rendue là. Je n'étais pas rendue à devenir entrepreneur. J'étais encore salariée. J'avais les trois enfants et j'ai bien fait finalement de ne pas accepter de reprendre l'entreprise parce que ma mère est décédée pas longtemps après. Mais quand je me suis questionnée, je me suis dit « je ne dois pas être la seule à avoir besoin de faire du réseautage différemment. Je ne dois pas être la seule qui a les valeurs que j'ai, familiales entre autres, pour concilier travail-famille par exemple. Je ne dois pas être la seule qui n'est pas en mesure d'aller déjeuner dans des 5 à 7 au centre-ville ou pas déjeuner dans des 5 à 7, Seigneur, je m'en allais dire déjeuner à tous les mercredis matin à 7h parce que moi je suis avec les cocos dans le rush de l'école, la garderie. Je ne dois pas être la seule qui n'est pas capable justement d'aller réseauter dans des 5 à 7 au centre-ville à cause du trafic, à cause des enfants aussi, le retour de l'école, etc. Donc, j'ai fait ce que je devais faire. J'ai fait une étude de marché, j'ai ouvert une page Facebook, j'ai créé mon propre site web et en octobre 2014, avec le syndrome de l'imposteur, le soir de ma fête, j'ai organisé un premier rassemblement de mères d'affaires qui fut un succès inattendu. Je me pince encore de cet événement-là. J'avais invité des mères en affaires que moi je connaissais en me disant « ben ça sera mon party de fête en même temps, puis s'il y a des inconnus qui s'ajoutent, ben ça sera cool. » Et il y avait beaucoup plus d'inconnus que de filles que je connaissais. Et le lendemain, moi j'ai ouvert mon plan d'affaires que j'avais fait en août par rapport à ce projet-là. Et je me disais « je vais ouvrir le RMA, le réseau des mères en affaires en Mauricie, d'où je viens, où j'ai encore plein de contacts. » Et le téléphone a sonné pour m'amener à Gatineau. Donc, c'est le RMA Outaouais qu'on a ouvert en premier. Une fille avait vu ça passer sur Facebook, voulait avoir le RMA dans sa région. On s'est fait une rencontre virtuelle via Skype et ça, c'était en novembre 2014. Aujourd'hui, le RMA compte 24 régions où se tiennent des activités mensuelles. Le RMA, c'est un congrès annuel où on réunit des centaines de mères en affaires de partout au Québec et on fait découvrir une belle région à chaque année. Donc, le congrès a eu lieu à Montréal, à Québec, à Shawinigan en Mauricie, à Tremblant dans les Laurentides. Et cette année, au moment où j'enregistre cet épisode, il aura lieu en octobre en Montérégie parce que c'est notre 5e année du réseau des mères en affaires. Donc, on fête ça, on revient en Montérégie où est né le RMA. Le RMA, c'est un voyage de formation dans le sud. Donc, on part une semaine dans le sud avec 5 conférencières, 5 avant-midi d'ateliers, conférences, formations pour nos mamans qui se choisissent et qui se payent en même temps des petites vacances. Le RMA, c'est un voyage en 2020, un échange commercial avec les mampreneurs en France. Donc, il existe une organisation, un réseau de mères en affaires aussi en France. Donc, on va faire un échange avec elle. On va noliser un avion. Il y a des mères en affaires qui vont partir en France, passer une semaine là-bas, faire des échanges avec les mamans françaises. Et par la suite, on reçoit les Françaises à la maison ici au Québec. Donc, ça va être hyper intéressant de voir comment nos collègues françaises vivent leur réalité de mère en affaires et surtout leur faire découvrir notre réalité. Avec Simon, on a eu deux enfants, donc Emma, qui est née en 2015, et mon petit dernier Georges, qui est né en janvier 2019. Et oui, j'ai un petit garçon de 5 mois au moment d'enregistrer cette présentation. Et ce qui me passionne le plus, c'est que je peux vivre ma vie, une vie sur mesure, comme j'ai envie de la vivre, parce que je suis maître de mon horaire. Je gère toutes les sphères de ma vie comme j'ai envie de les gérer. Moi, l'été, ça se passe avec les enfants. C'est ma priorité. Oui, je travaille, mais j'ai le choix de travailler, par exemple, quand ils sont dans la piscine, à la maison. Pendant ce temps-là, j'ouvre mon ordi, je réponds à mes courriels, je suis présente pour les membres du RMA, pour les non-membres, pour mon équipe de vice-présidente. Je peux travailler de partout dans le monde, donc je peux choisir d'aller passer une semaine chez mon père avec les enfants pour travailler de là-bas et prendre du bon temps, voir mes tantes, voir mon père. Je peux choisir de passer du temps en amoureux un lundi après-midi si ça me tente. Je peux choisir ce que je fais de mon temps. Je suis le maître de ma vie et je me crée une vie sur mesure. Donc, j'arrive à concilier le tout parce que quand j'ouvre mon agenda et que je me demande c'est quoi ma priorité de la semaine, c'est quoi les échéanciers que j'ai à respecter, ce qui vient en premier lieu, c'est toujours, toujours les enfants et la famille. J'investis beaucoup de temps en moi aussi. Je suis quelqu'un qui s'entraîne 3-4 fois semaine. Même déjà, après la naissance de Georges, ça a été rapide de reprendre l'entraînement parce que j'ai un entraîneur privé qui m'encadre. J'investis chez mon ostéopathe pour s'assurer que mon corps répond bien à l'entraînement. Je le fais de façon intelligente, mais pour moi, m'entraîner, c'est comme boire de l'eau ou manger mes 3 repas par jour. Si je ne bouge pas, je ne suis pas efficace. Je ne suis pas moi-même. Même les enfants ont commencé à me le dire. « Maman, ça fait-tu longtemps que tu es allée t'entraîner? » là, parce que là, t'es bougonne, ça ne marche pas. Je suis quelqu'un, je le racontais, qui a perdu son frère et sa mère très jeune. Donc, il me reste mon père comme famille. Alors, rapidement, j'ai compris que je devais créer ma propre famille élargie. Donc, j'ai des amis avec qui ça fait plus de 20 ans qu'on nourrit une relation d'amitié incroyable. Ces filles-là, je pourrais aller à l'autre bout du monde, leur sauver la vie et elles pourraient en faire de même pour moi. Donc, ces filles-là sont très présentes et j'essaie de les voir le plus souvent possible. Elles font partie d'une des sphères de ma vie que je concilie avec tout le reste. Ces amis-là, pour moi, sont ma famille, ce sont comme des sœurs, mais c'est encore mieux parce que c'est moi qui les ai choisies. Donc, c'est important pour moi de les voir le plus souvent possible. Et là, je sais que t'es déjà un peu étourdie de tout ce que j'arrive à faire en 24 heures, mais je tiens quand même à te dire que j'ai aussi une chaîne YouTube pour faire briller des mères en affaires que je connais, qui s'appelle « Sur la route show avec Christine », parce qu'avoir une entreprise dans 24 régions du Québec, c'est aussi rencontrer des filles exceptionnelles à la grandeur du Québec. Et pour moi, c'est important de vous les faire connaître. Donc, je t'invite à regarder la chaîne YouTube « Sur la route show ». J'ai aussi une chronique à la radio, à Planète Business, la radio FM 103,3, une opportunité incroyable que j'ai de vous parler de conciliation travail-famille via le médium qu'est la radio. Ça reprend en septembre 2019. Et maintenant, ben, j'ai vous avec le podcast où je vais vous parler vraiment de conciliation travail-famille. Je vais aussi vous faire découvrir des femmes exceptionnelles et des hommes aussi qui arrivent à concilier toutes les sphères de leur vie au quotidien et à être épanouis là-dedans. parce que c'est ça l'objectif ultime. Hein? On est en vie et on a juste une vie à vivre, mais il faut le faire à notre façon. Et ma réalité à moi, elle est différente de la tienne, j'en suis certaine. Nos valeurs, nos goûts, nos priorités sont différentes aussi. Et c'est ça qui est magique, c'est que c'est pas mieux, c'est pas pire, c'est juste parfait. Et moi, c'est ce que j'aime. C'est ce qui me fait vibrer de rencontrer des gens, de m'intéresser à eux. Je suis tout le temps comme en mode un peu entrevue parce que j'aime apprendre à connaître les gens. J'aime apprendre à connaître l'être humain qui est devant moi. Et ça me passionne vraiment beaucoup. Et je trouve que de partager nos trucs et astuces par rapport à ce qu'on vit, par rapport à nos réalités, c'est hyper nourrissant. Pour moi, de te parler à toutes les semaines, de te faire rencontrer des gens qui vont te faire vibrer, j'en suis certaine, c'est hyper nourrissant. Et je le sais qu'en retour, je vais pouvoir te nourrir de toutes ces connaissances-là, de toute cette inspiration-là. Donc, voilà ce que j'avais à te dire aujourd'hui pour cet épisode de présentation-là du tout nouveau podcast, pas la mer à boire, hein? C'est un beau petit jeu de mots que j'ai fait, dans le sens où arriver à concilier tout dans notre vie, c'est pas la mer à boire, hein? C'est faisable, c'est facilement réalisable, il faut juste prendre le temps et avoir les bons outils, et c'est exactement pour ça que j'ai accepté de créer mon podcast pour pouvoir te parler chaque semaine et faire en sorte que toi aussi, tu vives une vie sur mesure à ta façon à toi. Donc sur ce, je t'invite à écouter nos prochains épisodes, nos prochaines entrevues. Ça va être un plaisir pour moi de partager ce temps-là avec toi. Et s'il y a quoi que ce soit, n'hésite pas à me rejoindre. Tu peux toujours, toujours, toujours m'écrire à podcast@commercialreseaumereaffaires.com. Tu peux me rejoindre aussi sur Facebook. J'ai ma page pro, Christine Marcotte, où tu peux m'écrire. Ça va vraiment me faire plaisir de te répondre si tu as des questions ou si tu as des suggestions de sujets que tu aimerais qu'on jase ensemble, finalement. Ça va vraiment me faire plaisir d'y répondre.
Pas la mer à boire.
Première entrevue, pas la mer à boire, avec Christine Marcotte, où on reçoit Véronique Lavoie. J'ai bien hâte de te la faire découvrir. Bien entendu, le show est disponible sur Apple Podcasts, Google Play, Spotify, Android et sur radioh2o.ca. On se retrouve tout de suite après la pause.
Comment tout ça a commencé? Bien, j'ai reçu un courriel un soir, c'était un homme dans la quarantaine qui me demandait de l'aide, quelque chose qui avait bouleversé son passé. Dans le fond, sa mère avait été tuée par son père. Pour me rendre compte que c'était quand même quelque chose qui était difficile à cerner puis à trouver. J'ai commencé à chercher pour lui, mais c'était pas évident. Lui-même avait réussi à trouver le peu que j'avais trouvé d'articles de journaux de l'époque. Finalement, il a continué. Le lendemain, on s'est réécrit par courriel, puis il a continué son histoire. Et c'est là que j'ai découvert que, dans le fond, c'était pas mal plus nébuleux et pas mal plus spécial que je pensais comme histoire.
La dépoussiéreuse de crime. Une production originale, H2O, Web Media.
Je reçois une invitée que j'aime d'amour, qu'on s'est connue lors d'une activité de réseautage. Si je me trompe pas, tu n'avais pas envie de venir. Véronique Lavoie, bonjour!
Bonjour!
Comment vas-tu?
Ça va très bien!
Ça va très bien! Raconte-nous un peu ton parcours. Je te laisse te présenter, en fait, à nos auditeurs.
En fait, je vais commencer par expliquer pourquoi j'avais pas envie de venir. c'est que moi, j'ai pas d'enfant.
Aha!
Je suis en affaires, mais j'ai pas d'enfant. Puis en plus, avec ma réalité de coiffeuse, qui est un salon de coiffure pignon sur rue, j'étais en retard pour arriver au réseautage. Donc, ça me sortait beaucoup de ma zone de confort. Mais je suis vraiment contente d'être allée quand même.
Oui, parce que là, on a pu jaser. C'était une activité de réseautage du réseau des mères d'affaires, mais on a eu l'opportunité de jaser ensemble. Qu'est-ce que tu venais chercher exactement?
C'était ma première expérience en réseautage. Je voulais voir un peu qu'est-ce que je pouvais aller chercher, certainement de la visibilité, me faire connaître un petit peu plus. Moi, ça faisait pas tant d'années que ça que j'avais mon salon de coiffure à Arvida au Saguenay. Ça a été le début vraiment d'une belle histoire parce que grâce, entre autres, au réseau des mères en affaires, mais vraiment, là, ça a été les débuts quand je t'ai rencontré, Christine, parce que j'ai vu qu'est-ce que je pouvais faire de plus. Puis depuis ce temps-là, je suis formatrice, coach, experte en psychologie capillaire.
Bon, on va partir du début. T'as ton salon de coiffeur. Raconte-moi ça, là. Comment t'es venue l'idée? Pourquoi t'es... Parle-moi du début, ton cours, pourquoi t'es devenue coiffeuse, etc., etc.
Je suis devenue coiffeuse parce que c'était une... J'utiliserais le mot presque fatalité. C'était ça, il n'y avait rien d'autre. Quand j'étais petite, je coiffais ma sœur, j'ai appris toute seule à me faire des tresses françaises. Ça a été très, très, très naturel. Puis, ma mère arrive de chez la coiffeuse, elle a une coiffure rouge. Je dis, là, tu défais pas ça toi-même toute seule, là. C'est moi qui le défais.
Tu voulais voir comment qu'elle avait fait.
Oui, toutes mes amies avec cette coiffure-là.
Après ça, tu la reproduisais. J'adore ça.
Je la reproduisais, puis je testais des manières de la faire différemment. Fait que quand je suis sortie du secondaire, il n'y avait pas d'autre choix. C'était ça. Contingenté ou pas, c'était ça.
OK. Tu as fait ton cours où?
À Alma.
OK.
DEP professionnel en coiffure au CFP d'Alma.
OK.
J'ai travaillé comme salariée pendant plusieurs années dans les Smart Style.
Ah ouais, OK.
Les grosses chaînes de salon de coiffure, oui. Ouais. Coiffeuse, assistante gérante, gérante, jusqu'à temps que j'en ai plein mon casque. Je suis partie d'Alma pour me rendre à Jonquière parce que c'était mon milieu de vie, Jonquière, depuis des années.
Mm-hmm.
Puis j'ai décidé de me trouver une place pour louer ma chaise, là.
OK. Puis là, t'as loué ta chaise, puis ensuite?
J'ai loué ma chaise pendant 2-3 ans max, puis on m'a offert d'acheter le salon. J'ai sauté tout de suite sur l'occasion. Ça faisait partie de ma bucket list, là, d'avoir mon salon de coiffure à moi.
Ben oui.
Puis, ça n'a pas été trop long que je trouvais que c'était le fun d'être propriétaire, mais je voulais aller plus loin, je voulais faire quelque chose d'autre. La vie m'appelait à plus, mais je savais pas quoi.
L'appel, mais on sait pas qui c'est qui nous appelle.
Exact. On sait pas. C'est appel masqué.
Numéro bloqué, inconnu.
Ouais.
Puis là, finalement, t'as décroché l'appel.
Oui.
C'était quoi qui t'appelait?
C'est transmettre mes connaissances.
Ah!
Vraiment.
Plus juste... Mais pas juste, mais pas seulement t'occuper de tes clients, mais vraiment aller au niveau de l'enseignement à d'autres coiffeuses, etc., etc.?
Oui, okay. Entre autres. Au départ, il y a eu un déclic que je trouvais que ma profession était pas aussi bien vue, puis était pas aussi reconnue qu'elle était, puis mm-hmm. Les jeunes n'avaient pas nécessairement envie de s'inscrire dans ce cours-là non plus. Puis j'ai dit, qu'est-ce que je pourrais faire, moi, pour pouvoir aider ça? Puis, de fil en aiguille, j'ai développé mes compétences comme formatrice. Je peux enseigner à quelqu'un se coiffer elle-même, comme je peux montrer aux coiffeuses aussi ce qui est plus ma zone de génie, qu'est-ce que j'aime vraiment faire, okay. La coiffure haute, les mises en plis, ces trucs-là. Puis, après ça, ben beaucoup de demandes puis beaucoup de feedback positif par rapport à ma perception puis à la manière que j'ai aidé les gens à sortir de leur zone de confort puis à se mettre en action.
Mm-hmm.
Fait qu'à ce moment-là, ben j'ai pas eu le choix de suivre la vague puis de dire bon, mais je vais devenir coach aussi.
Oui, parce que là, dans le fond, tu l'enseignes à des, mettons comme moi, qui est mère de famille, mais aussi à des coiffeurs. Ça s'adresse à tout le monde, là, ce que tu enseignes finalement.
Oui, il y a différents volets. C'est pas le même cours pour tout le monde. Mais je suis ouverte à différents volets. Je pense que j'ai le petit côté un petit peu multipotentiel.
Oui.
Je peux pas m'arrêter à juste une affaire.
C'est clair. Mais là, ton programme, on peut suivre ça comment? Faut-tu que je vienne à Jonquière? Comment ça fonctionne?
Non. Vu que je suis à Jonquière, c'est sûr que la technologie, c'est mon meilleur ami. Puis c'est votre meilleur ami aussi. Là.
Oui, c'est clair.
J'ai appris tout de suite à travailler avec les plateformes de vidéoconférence. Puis j'ai du super bon feedback par rapport à ça. Là, que ce soit avec les professionnels ou le grand public, là, les femmes. À qui j'ai transmis mes connaissances que j'ai enseignées, ils me disent c'est comme s'il y avait des cours privés
wow. À
la maison vu que on était en vidéoconférence ou qu'ils regardaient les vidéos préenregistrées qu'on avait faites.
Donc là, si on a des papas qui nous écoutent, là, le fameux vidéo de la balayeuse, ben on a beaucoup mieux. On a Véronique Lavoie qui
oui.
Nous enseigne plein de bons trucs, c'est ça?
Exact.
Ah, génial. Mais comment t'es venue l'idée d'aller vers un programme en ligne comme ça?
Et j'en ai suivi quelques-uns, moi, des programmes en ligne, puis je trouvais ça vraiment plaisant du fait que je n'ai pas besoin de me déplacer.
Ouais.
Puis je me suis rendu compte que c'était une réalité pour tout le monde, malgré que moi, tu sais, je suis plus facile de me déplacer vu que j'ai pas d'enfant, mm-hmm. mais en même temps, ben, je trouvais ça très, très, très accessible partout. Des clients d'un peu partout, là. Les premières patches de clients que j'ai eues à Bécomo, tu sais, c'est donc bien le fun, tu sais, on n'aurait pas pu, là.
Se rencontrer autrement, mais là, virtuellement, ça fonctionnait.
Oui.
La distance est inexistante, finalement, virtuellement, dans le fond.
Oui.
Parlons-en justement. Moi, je voulais te recevoir aujourd'hui parce que, bon, moi, j'ai la chance de la connaître, Véronique, mais je veux te faire connaître. T'as pas d'enfant. C'est comme un peu tabou, hein, aujourd'hui, dans les années, je m'en allais dire 2000, même si on est rendu bien plus loin que ça, mais il reste que c'est un peu tabou. Comment tu y fais face? Est-ce que tu sens le regard des gens? Est-ce que c'est difficile pour toi de dire que t'en veux pas? Parle-moi de ça.
Ben au départ, souvent les gens étaient mal à l'aise parce qu'ils n'osaient pas me demander si c'est parce que j'étais pas capable d'en avoir.
Mmh.
Puis maintenant, tout de suite là, quand le sujet est abordé, je vais tout de suite dire que c'était par choix.
Mmh.
Donc à ce moment-là, ça rend les gens plus à l'aise. Puis habituellement, ils vont dire ah ben oui, c'est vrai, c'est un choix.
Absolument, absolument. Mais pour arriver à faire ce choix-là, as-tu trouvé ça difficile?
Ben moi, c'est un choix qui m'a été je dirais pas imposé, mais un petit peu quand même parce que mon conjoint, lui, était vraiment, vraiment sûr à 100%
qu'il en voulait pas.
Non. Que lui, c'était non négociable. Et quand je l'ai rencontré, j'avais 20 ans, il me l'a dit tout de suite. Puis ça a pris une année ou deux avant que je puisse vraiment y penser au début de notre relation pour me rendre compte que oui, c'était correct. J'embarquais dans le projet, puis que j'étais même contente qu'il me l'ait dit, parce que j'ai eu des amis que elle, ça a été le contraire.
Oui, ben oui.
Des relations qui ont duré des années, puis que lui, il avait pas osé le dire, puis finalement, ben, ça finit que...
Ou que la fille se dit, je vais le faire changer d'idée, puis qu'elle vit déception après déception. Effectivement, c'était... L'honnêteté était de... C'est vraiment chouette qu'ils te le disent dès le départ, là.
Oui, oui, oui. Vraiment apprécié, puis mon chum, il est super honnête, puis super... Lui, c'était non. Fait que j'ai dit, OK, c'est correct. J'ai réalisé par après que dans le parcours, ma mère en voulait pas. C'est mon père qui l'a convaincu.
Mmh.
Ma petite sœur m'a donné une filleule. Ça a été une expérience extraordinaire. Mais elle non plus, si son chum n'était pas vraiment très, très engagé puis voulait vraiment des enfants, ça l'aurait pas nécessairement dérangé.
OK, OK. Oh wow! Mais bravo, moi je veux te dire bravo pour ça parce que, tu sais, j'en connais pas beaucoup des filles qui osent s'affirmer. Un gars, c'est comme plus normal, même si c'est pas le bon mot. Mais une fille, je trouve ça vraiment hot que tu puisses le dire puis bien vivre avec ça. Puis effectivement, moi, la première fois qu'on s'est rencontrés, quand tu m'as dit ça, que t'avais pas d'enfant puis que c'était par choix, je t'ai beaucoup admirée pour ça parce que justement, il y en a pas beaucoup qui osent le dire parce qu'il y a beaucoup de préjugés. Autant qu'il y en a, tu sais, moi j'ai 5 enfants puis je me fais juger au bout. Mais c'est vraiment, je trouve que les gens sont durs puis je trouve ça beau de voir. Tu sais, je trouve que ça transparaît dans ta personnalité parce que justement, vu que tu l'assumes pleinement, ça fit au bout. Tu sais, tu regardes pas à terre quand tu le dis, t'en parles vraiment ouvertement, puis je trouve ça très, très beau de voir ça. C'est pas donné à tout le monde de l'assumer, ce choix-là. Fait que bravo, je voulais te dire ça, ma belle Véronique.
Mais merci!
Puis moi, ce que j'aime aussi, c'est que t'es pas une... C'est quoi le mot que je cherche? T'es pas amère des enfants des autres, tu sais. Tantôt je te regardais aller avec les enfants, puis t'es pas oh mon Dieu des enfants là, c'est pas t'as pas le dédain des enfants. Au contraire, ça te dérange pas les enfants.
Non, puis comme je te racontais tantôt, ça m'était apporté ce choix-là. J'ai embarqué dans le choix de mon chum, mais en même temps, j'étais pas encore totalement décidée moi-même si j'en voulais ou pas. J'étais pas d'emblée vraiment attirée envers les enfants, mais j'aime quand même interagir avec eux. Ce qui a été vraiment là le déclic que j'ai su pour vrai que j'avais fait le bon choix, mm-hmm. c'est quand j'ai eu ma filleule naissant dans mes bras. Là, par exemple, parce que tu sais, c'est tout le temps difficile de se dire, je vais-tu l'avoir la pelle, je l'aurai pas, tu sais,
avec le regretter à 40, 50, 60 ans.
Quand j'ai eu Rosalie dans mes bras, je le savais parce que j'avais pas le goût d'en avoir une à moi. Elle, c'était bien en masse.
C'était trippant de l'avoir, elle,
ouais.
comme nièce, mais pas nécessairement au quotidien non plus, tu sais.
Exact.
Ah, mais c'est ça que je disais. C'est hot. Moi, j'ai des frissons quand je t'écoute parler de ça parce que c'est ça, t'es vraiment très authentique. Les gens qui vont apprendre à te connaître, je suis convaincue que c'est comme ça aussi dans ton coaching. Je trouve que t'es super authentique. Véronique, c'est une magnifique femme aux cheveux rouges, aux yeux verts. T'es une belle fille, une belle grande fille en plus. Vraiment bourrée de talent et très authentique. Donc, allez la suivre, ça vaut la peine. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite, Véro?
On me souhaite continuer à oser être moi-même de plus en plus pour pouvoir apporter qu'est-ce que j'ai à apporter. C'est vraiment ça. Parce que même si j'ai l'air à m'assumer à 100% puis à être... Il y a toujours des étapes, des couches qu'on enlève, puis de pouvoir contribuer de plus en plus pour mettre en lumière la profession de la coiffure que je capote dessus depuis tout le temps. C'est ça que faut me souhaiter.
Ben c'est ce qu'on te souhaite parce qu'effectivement, il y a beaucoup de préjugés par rapport à ta profession. Souvent, on va penser, les DEP en général, après le secondaire, souvent les gens vont penser que c'est parce qu'ils n'ont pas de facilité à l'école et tout ça. Mais non, ça veut pas dire, ça peut être vraiment par choix qu'on décide d'aller vers une profession qui se donne dans un DEP, pas obligé d'aller à l'université pour pratiquer avec passion un métier. T'en es la preuve vivante en plus, c'était vraiment ton choix depuis que t'es toute petite que tu voulais devenir coiffeuse puis faire rayonner les gens parce que, comment, c'est quoi ton titre, là? Pas la thérapie du capillaire, mais...
Experte en psychologie capillaire.
Ben c'est clair, parce que moi, quand je vais chez ma coiffeuse, c'est une thérapie en soi. Moi, je viendrais te voir, là, mes brossards chez Onkia, c'est un peu loin. Mais c'est vrai que quand on va chez la coiffeuse, c'est une thérapie vraiment en soi, parce que t'as sûrement, tu reçois sûrement plein de confidences sur ta chaise de coiffeuse, je suis sûre.
Énormément de confidences.
Peut-être trop des fois. Puis en même temps, tu fais tellement du bien aux femmes parce que tu les rends belles. Puis ton domaine, ça prend une expertise parce que, en tout cas, moi, pour t'avoir vu coiffer d'autres gens, tu vas pas aller à l'encontre, par exemple, de la physionomie du visage, la couleur des yeux, la couleur naturelle des cheveux. Tout ça, ça prend des conseils, ça prend une expertise. Puis tu prends vraiment le temps avec ton monde de les écouter. Marcel Michaud, quand il était venu te voir, quand on est venu te voir au Saguenay, elle t'avait demandé une couleur de cheveux. T'es vraiment allé dans le respect, tu l'as bien conseillé. C'était beau de voir ça aller. Fait que c'est vraiment une expertise que tu as développée puis c'est ce que t'enseignes aussi dans ton programme, j'imagine.
Oui, la communication, puis comment se mettre à la place de la cliente pour faire en sorte qu'elle soit le plus heureuse possible. Oui, c'est beaucoup ça.
Ben bravo à toi. Je te souhaite plein de succès, vraiment, vraiment. Puis donne-nous ton site web, où est-ce qu'on peut te rejoindre, là, vas-y.
Pour me suivre un peu partout, c'est sous le nom de La Couleur de Véronique. Véronique, je l'écris I-K-E, avec un K. Que ce soit sur Facebook, sur Instagram, mon site internet, c'est www.lacouleurdeveronique.com. J'ai quelques capsules YouTube aussi.
Oh! Le nom de ta chaîne, c'est La Couleur
de Véronique. La Couleur de Véronique.
Donc, on tape ça, c'est sûr qu'on te trouve un peu partout.
Exactement.
Excellent. Merci beaucoup de ton temps.
Merci à toi, Christine, de m'avoir invitée.
On se retrouve pour un prochain épisode de le podcast La Mère à bord.
Une production originale H2O Web Média. Le web est un média.